Des photos postées sur un compte Twitter, peut-être les premières images de composants du casque Apple de réalité étendue, des câbles plats en forme d'arceau, qu'on imagine très bien connectés de part et d'autre des yeux aux écrans. Un casque qui divise designer et patron à Cupertino, à moins de 3 mois maintenant de sa présentation probable. Tim Cook aurait pu être mis en difficulté, mais la réunion annuelle des actionnaires d'Apple a tourné au quasi-plébiscite avec renouvellement du board et rejet de toutes les motions dont les dirigeants ne voulaient pas entendre parler. Le détail à venir avec Gilles Dounès, notamment autour du salaire de Tim Cook en 2023 et des dirigeants d'Apple. La soupe reste très bonne, comme on dit. Gilles, dont la mise au point hebdomadaire sera consacrée à la prochaine nouvelle vocation de vos AirPods, la santé. Et il va tout nous expliquer. Et puis, le bonus exclusif pour notre communauté Patreon, cette semaine, la vérité sur les photos de lune à peine croyable réalisées avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Enfin, peut-on encore vraiment parler de photos ? Un bonus audio et vidéo à écouter et à regarder sur patreon.com/iWeek. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Benjamin Vincent, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans ce 128e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Nous sommes le mardi 14 mars 2023, il est 18h28, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine autour de notre passion commune. Et je salue tout de suite mes deux complices du jour, Gilles Dounès et Fabrice Neumann. Bonjour à vous deux, mes amis.
Bonjour à tous les deux, mes amis.
Salut mon capitaine. Salut à tous.
C'est tellement naturel. Bon, on va être entre nous, hein, tous les trois aujourd'hui, pour aborder deux gros sujets. Le casque de réalité étendue, moins de 3 mois maintenant avant la WWDC. Et des tensions entre l'équipe design d'un côté et la direction de l'autre avec Tim Cook et Jeff Williams qui veulent le présenter absolument cette année. Casque dont on a peut-être découvert ces dernières heures les premiers composants et on va en parler. Autre sujet, c'était vendredi dernier, le 10 mars, la réunion annuelle des actionnaires d'Apple. Tim Cook aurait eu de quoi être un petit peu fébrile, un petit peu plus en tout cas que les années précédentes. Mais non, tout s'est tellement bien passé. On peut se demander si cette réunion, en dehors de son aspect légal, a un quelconque intérêt dans la vie d'Apple. On va revenir sur les détails avec toi, Gilles. Et on te retrouve tout à l'heure pour ta mise au point. Et tu vas regarder plusieurs années devant nous avec une paire d'AirPods dans les oreilles. Pourquoi, Gilles ?
Oh, pour essayer d'y voir plus clair.
Tu sais que c'est les lunettes hein, pour voir plus clair, normalement.
Non, mais là, c'est Apple qui va, éventuellement avec des capteurs... Idoine va essayer de regarder à travers la peau du conduit auditif pour faire ce qu'ils font normalement avec la peau du poignet, essayer de voir les constantes. Il y a eu des chuchotements. Il se murmure que Apple aurait des projets santé pour les AirPods.
Mais on va en parler tout à l'heure. Avec toi et pour réagir à tous ces sujets, commenter, donner votre avis et peut-être nous envoyer vos infos, n'oubliez pas le hashtag iWeekLSA sur Twitter et sur Mastodon. Et puis, je le répète chaque semaine, alors faites-le bon Dieu, cette fois-ci vraiment abonnez-vous à iWeek la semaine Apple. C'est simple, hein, il suffit de cliquer sur le bouton « Suivre ou s'abonner » sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis si l'actu vous intéresse, l'actu Apple évidemment, je vous conseille vraiment notre podcast quotidien, la quotidienne iWeek. C'est 5 à 10 minutes par jour du lundi au vendredi avec les 5 infos essentielles dans l'écosystème. Je vois que Fabrice se marre sans doute à cause des 10 minutes. Et ce podcast, eh bien, il est gratuit lui aussi, alors ne vous privez pas et suivez la quotidienne iWeek. Je vous rappelle aussi que cet épisode est disponible en version vidéo dès le jeudi et sans pub pour notre communauté sur patreon.com/iWeek et à partir du dimanche sur YouTube pour tout le monde. Allez, dans un instant, vous saurez à quelle occasion Tim Cook est apparu sous la forme de son Memoji, mais tout d'abord, les tensions entre Tim Cook et l'équipe design qui a succédé à Johnny Ive au sujet du futur casque de réalité étendue d'Apple. Les premières photos de composants internes du futur casque Apple de réalité étendue ont peut-être fait surface sur Twitter cette semaine, c'était ce mardi. On va y revenir, mais d'abord ces révélations du Financial Times en fin de semaine dernière sur des tensions internes extrêmes chez Apple autour du casque. Tension entre l'équipe design d'un côté qui aurait clairement fait savoir que le produit n'était pas satisfaisant, en tout cas en l'état, et qu'il valait mieux attendre de sortir carrément les lunettes, potentiellement pas avant 2025. Et d'autre part, Tim Cook et son monsieur logistique, potentiel successeur non charismatique, Jeff Williams, qui ont quand même choisi de donner le go au lancement cette année. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, Fabrice et Gilles. Est-ce que vous accordez du crédit à cette info du Financial Times sur cette tension qui serait en ce moment un sorte de paroxysme en interne chez Apple sur le sujet du casque?
Ah, c'est difficile à savoir, naturellement. Je pense, cela dit, que la tension, elle existe à chaque fois qu'il y a un lancement de produit, en tout cas au moins d'un nouveau produit. La première chose, moi, à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai pas d'infos là-dessus. Je me rappelle pas vraiment à ce moment-là, mais je serais pas étonné qu'au moment de la sortie de la première version de l'Apple Watch, il y avait la même chose. Parce qu'on a vu l'Apple Watch évoluer tellement rapidement entre la version, la série 0, qu'on peut rappeler comme ça, qui était la première montrée, et puis même la version juste après, pas forcément en termes de design matériel, mais en termes d'histoire autour et de développement logiciel, parce que ce qu'ils ont montré la première fois, ça n'a rien à voir avec ce que ça a été ensuite et ce qui nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait qu'il y ait des tensions comme ça, je serais pas étonné, effectivement.
Mais est-ce que pour autant, ce sont des tensions qui auraient existé avant le départ de Johnny Ive? Gilles, on sait que la relation avec Tim Cook n'était pas du tout la même qu'avec Steve Jobs à l'époque. Mais est-ce que c'est une nouvelle étape dans une sorte de guerre d'intérêts, presque de conflit d'intérêts entre les intérêts de l'équipe design et l'intérêt de l'équipe plutôt commerciale, on va dire, hein, pour être clair?
Alors, je ne sais pas si on est sur le design et le facteur de forme ou la maturité des composants qui sont disponibles et donc la faisabilité, l'intérêt de l'appareil, du device en termes de fonctionnalité ou en termes de, je pense surtout, de puissance de calcul et d'autonomie. Autonomie en termes de fonctionnement et puis liberté par rapport à des batteries qui vont être plus ou moins volumineuses. C'est toujours le composant qui est la clé. Après, on les intègre et les services de design industriel, qu'ils soient matériels ou facteurs de forme, font des miracles. Il y a maintenant le canal par lequel la rumeur est passée, c'est le Financial Times qui est basé à Londres. On n'est pas dans les canaux habituels, c'est pas des Américains. Alors,
qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Alors Fabrice est rentré dans le dur directement. J'allais faire une blagounette en disant c'est Johnny Ive qui fait l'intéressant et qui est pas content d'avoir été viré. Mais
je te voyais bien venir, effectivement, ouais, là-dessus.
Il est pas inutile. Comment dire, c'est pas impossible aussi que Johnny Ive ait entendu des choses de la part des gens qui sont pas contents. Le dernier dirigeant est parti sans être remplacé. Il a peut-être entendu des choses et a fait des confidences, si ce n'est des indiscrétions. Si ça se trouve, c'est pas du tout lui non plus. Hein, mais
attends. Alors, le dernier dirigeant, d'abord, c'était une femme, hein, c'est Evan Sankey. Je sais pas si c'est d'elle dont tu parles.
Oui, mais il y avait un quelqu'un auparavant encore.
Ah non, il y a eu Johnny Ive et après il y a eu Evan Sankey qui est parti au mois de décembre, si je ne me trompe pas.
Enfin, elle a annoncé qu'elle partait dans 6 mois. Elle est donc encore là.
Non, elle est encore là. Ah non, elle a annoncé. Non. Elle avait annoncé l'été dernier qu'elle partirait en décembre.
Ah.
Donc elle n'est
plus
là.
En tout cas, le contexte fait que. Pardon pour cette erreur, mais que. C'est ce qu'on avait vu, c'est que du coup il y avait
pas eu de nommé de personne en remplacement au top du design qui personnifiait le design. On s'était dit que c'était peut-être une volonté justement d'Apple de ne plus personnifier trop, en tout cas, quelles que soient d'ailleurs les fonctions. Et c'est ce qu'on avait vu aussi en termes de présentation, où il y a de plus en plus de personnes différentes qui morcellent les présentations d'Apple pour qu'on voit plus de gens, plus de diversité, et peut-être aussi moins une ou deux personnes en tête de flèche pour représenter quelque chose. Quant à savoir si ça joue sur le sujet dont on parle, c'est-à-dire la tension autour du casque, je me méfie toujours d'un truc, c'est que là c'est un nouvel appareil, une nouvelle catégorie d'appareil, en tout cas pour Apple. Mmh. Donc il y a forcément de la tension, notamment aussi de la tension sur quand est-ce qu'il faut le sortir, est-ce qu'on est prêt, le réglage de toutes les chaînes de fabrication et d'approvisionnement qui sont donc effectivement la spécialité de Tim Cook et de Jeff Williams. Ça peut pas être réglé et bien huilé comme pour l'iPhone 14 qui en gros se règle, j'exagère à peine, mais une main attachée dans le dos, parce que ça fait tellement de temps qu'ils font ça que ils peuvent réagir au cordeau. Donc je pense qu'il y a et donc là où je me méfie, c'est que je pense aussi que ce qu'on est en train de voir venir en surface, ce sont toutes les tensions au fur et à mesure des années de mise au point de ce casque. Et que ça, c'est pas seulement la semaine dernière, c'est pas en plus une décision qui date d'il y a 3 jours. Bon, allez, on y va. Il y a sûrement eu déjà en plus des retards et des décisions prises pour retarder la sortie, comme on semble le pressentir. Je perçois plutôt une tension au long cours autour d'une nouvelle catégorie de produits qui, en plus, potentiellement pour Tim Cook, est vraiment important. Vraiment importante, pardon, pour la catégorie, pour asseoir. Il y en a beaucoup qui parlent de son héritage. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est ça qu'il a envie de laisser ça en héritage? Et c'est probablement vrai. Et on sait qu'il ne va pas rester toute la vie. Et que pour qu'il y ait un héritage, il faut que le nouveau produit qui soit lancé fonctionne et fonctionne pendant quelques années. Le lancement ne suffit pas. Donc il a besoin de temps, en tout cas, pour lancer le produit et l'asseoir sur un marché. Donc c'est peut-être ça qui pousserait effectivement à lancer le produit maintenant.
Alors, petite précision, il est question d'un côté de l'équipe design, donc cette équipe collective qui succède en ce moment, parce que je viens de vérifier, ça a été annoncé en octobre qu'elle partirait d'ici quelques mois. On est 6 mois plus tard. Donc, elle est toujours sur LinkedIn présentée comme design industriel chez Apple. Donc, elle n'est peut-être pas encore effectivement partie, mais je pense que c'est plus qu'une question de quelques jours.
Les valises sont prêtes,
quand
même. Oui.
Les valises sont prêtes. Et pourquoi, de l'autre côté, on a Tim Cook et Jeff Williams? C'est parce que elle reportait à Jeff Williams, Evan Sankey, et l'équipe design qui lui succède reporte directement à Jeff Williams, donc c'est leur N+1, lui-même étant le N-1 de Tim Cook. Voilà pourquoi on a ces trois entités, Tim Cook, Jeff Williams et l'équipe design. Tu disais effectivement que ça allait être l'œuvre de Tim Cook, probablement ce projet autour de la réalité étendue avec le casque. On va rappeler aussi que ça fait 7 ans qu'Apple travaille dessus. Est-ce qu'il y a un produit qui a déjà pris autant de temps de conception avant son lancement effectif, dans votre souvenir? J'ai pas l'impression, moi.
Non. La montre, l'iPad.
Je pensais à l'iPad aussi, ouais.
Oui, parce qu'ils ont commencé à travailler dessus avant de bifurquer sur l'iPhone, en se disant c'est d'abord là-dessus qu'il faut aller, parce que ça sera plus facile, et puis tout le monde est dingue, râle après son téléphone, il faut absolument quelque chose qui fait plaisir, sachant que le point de départ du travail d'Apple sur les les tablettes, c'était de voir Microsoft se pavaner avec ses tablettes PC et Steve Jobs disant mais c'est juste pas possible, on doit faire mieux et on va faire mieux. Ils ont commencé à faire travailler je ne sais plus quelle société à partir de MacBook avec une surcouche tactile. Et ensuite, ils ont embrayé là-dessus, c'était en 2003-2004 de mémoire. Mais je voudrais revenir sur ce que disait...
Enfin, Fabrice. Gilles, pardon, oui. Il y a 3 ans entre l'iPhone et l'iPad, 2007-2010, pour que le projet iPad ait pris plus longtemps que le projet du casque, ça voudrait dire qu'Apple travaillait dessus depuis au moins 2003.
Oui, c'est bien ce que je dis.
On est dans les mêmes eaux, mais est-ce qu'on n'est pas à un stade où... À un moment, il faut y aller, quoi, quand même.
Il faut les composants.
Le cheval de bataille de Gilles, les composants. Allons-y.
Mais oui, on a compris, Gilles. Mais ça fait 7 ans qu'il faut les composants, quoi. Donc à un moment, soit on sort un produit avec ce qu'on a sous la main, soit on arrête. Enfin, je veux dire,
c'est
est-ce
là
que
où
ça a encore un
venir.
Sens.
C'est là où je voulais en venir. Je voulais appuyer ce que disait Fabrice sur le leadership. John Rubinstein, quand il est revenu, a appris aux ingénieurs d'Apple à réussir du premier coup et à réussir à sortir un produit à la date, quoi qu'il en coûte, quitte à revenir dessus dans les...
C'est oui, d'accord, mais enfin, c'est le sens du mot réussir, si tu veux, que je mets un petit peu entre guillemets. Voilà. Je suis pas sûr que John Rubinstein ait réussi tout ce qu'il a lancé chez Apple. Hein.
Non, mais
voilà. Il en a sorti des croûtes aussi.
Réussir,
hein. Oh là là, oui.
Réussir à rencontrer les deadlines, à sortir à la date prévue.
Ah oui,
que
ça,
le produit soit abouti. Totalement abouti, c'est autre chose.
Ah oui,
mais
d'accord.
Au moins,
d'accord.
Ben oui, mais justement, c'est quand même exactement ouais. De ça dont on parle, c'est que il y a un moment, et c'est pour ça que pour moi l'exemple de l'Apple Watch est vachement intéressant, c'est que ils ont sorti un truc, la première version c'était pas sec, la deuxième version non plus, c'était mieux, et ainsi de suite. Et je pense que toute la discussion qui semble y avoir entre Cook Williams et les autres, c'est que ben non les gars, on va pas attendre parce que finalement, je fais un parallèle entre ça et l'achat d'un nouvel ordi. Peut-être que si j'attends un peu, j'aurai un ordi meilleur. Sauf qu'il y a un moment, j'en ai besoin.
Exactement.
Donc il faut prendre celui qu'on a, le meilleur qu'on peut s'offrir avec le budget qu'on a à l'instant T. Et en tout cas, c'est vrai que je trouverais dommage et surprenant que les designers, si c'est le cas, gagnent cette bataille en disant si on attend, on aura mieux, sachant que le marché n'existe pas et qu'il faut réagir au marché qui est en train de se mettre en place. Et d'après ce qu'on voit chez Facebook, enfin Meta n'est pas en train de se mettre en place de manière pérenne pour eux en tout cas. Et donc faut y aller pour voir comment. Là, je pense que Apple, comme les autres, a besoin de savoir comment le public réagit avec ce qu'ils peuvent proposer. Et en plus. Pour terminer là-dessus, il me semble que ça fait tellement d'années. Alors non seulement qu'ils y travaillent, mais preuves qu'on a du fait qu'ils y travaillent, ce sont toutes ces briques qu'on a déjà détaillées ici, c'est-à-dire les lidars sur les iPhones, les iPads, les formats de fichiers USDZ pour les objets en 3D, la capture en 3D, on voit les objets qu'on peut regarder en réalité augmentée quand il y a un nouveau produit, c'est très mignon, mais ça sert pas à ça. Tout est prêt ou presque, il manque plus que ce fameux casque, j'ai failli dire un mot plus gros, pour qu'on ait vraiment quelque chose, j'allais dire dans les mains, mais justement non, pas dans les mains et devant les yeux pour qu'on voit vraiment à quoi ça peut servir. Et depuis le temps que Tim Cook a envie de mettre ses tableaux numbers devant les yeux, il serait temps qu'on y arrive.
Ouais Gilles, si on suit cette logique, je veux dire, Apple aurait même jamais lancé le PowerBook 100 et on n'aurait jamais eu de portable. Ils auraient toujours attendu une version, il serait moins lourd, plus d'autonomie, avec un écran avec plus de couleurs. Enfin, tu vois, on n'en sort pas, quoi.
On dit tous les trois la même chose. C'est bien ce que je voulais dire avec l'exemple de John Rubinstein.
comment dire, mais il faut bien faire comme si on n'était pas d'accord. Ça met un peu de piquant.
Il y a le truc de Steve, on va le ressortir encore et on va mettre... Je propose de mettre une tirelire et chaque fois qu'on parle de Steve, on met chacun 5 € et puis on ira au restaurant à la fin de l'année. La fin
de la saison. Moins de 20 minutes, on a parlé de Steve, c'est bien.
Et donc, il a bien insisté sur les fenêtres de tir sur lesquelles il était possible de sortir en produit. Avant, le marché n'était pas prêt, les composants non plus, encore une fois les composants. Et puis ensuite, c'était trop tard. C'est ce qui est arrivé pour bon nombre de produits et de concurrents d'Apple.
Bon, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est Tim Cook qui a le dernier mot. Et pour autant, moi, je le vois très très mal lancer un produit qui ne soit pas prêt. Alors, il ne sera peut-être pas encore idéal. Il le sera peut-être que dans 2 ans. Mais je ne le vois pas lancer un produit pas prêt. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent? Un peu moins de 3 mois, d'ailleurs, puisqu'on est le 14 mars et que la WWDC pourrait démarrer autour du 6 juin.
Il va faire ce que Steve a fait au dernier trimestre 2006, quand HTC a fait sa conférence de presse en montrant son mock-up de téléphone à écran tactile. Et il a mis un gros coup de pression sur ses équipes en disant « il faut qu'on soit prêt ». Et ils ont été prêts.
Donc il a raison.
Il a raison, mais...
Ils seront prêts.
Ils auront quelque chose à montrer, en tout cas.
Oui, j'allais faire exactement la même phrase que Gilles. Ils auront quelque chose à montrer, oui.
J'étais prêt, derrière... Je vais revenir à la présentation de l'iPhone. J'étais un peu en arrière de Steve avec les photographes. Et j'avais la vue, j'étais placé idéalement, j'avais la vue de 3/4 sur le pupitre. Et sur le pupitre à disposition de Steve, il y avait encore un, ça fait 15 euros là, il y avait 3 iPhones, un par fonctionnalité, ou alors 2 de secours, mais c'était bien la preuve que c'était pas prêt, enfin la peinture était pas tout à fait sèche, comme dit Fabrice, à tel point que ça a planté à un moment donné, et Steve a été obligé de meubler en racontant la fameuse anecdote du brouilleur de télévision qu'ils utilisaient dans les dortoirs de Stanford pour mettre un peu la panique.
Mais si on se souvient aussi du lancement de l'iMac en 1997, vraiment dans les heures qui ont précédé, il y a une équipe de 20 salariés d'Apple de l'équipe design qui sont allés les chercher les protos en Corée chez LG, parce que LG fabriquait les écrans. Ils les ont ramenés dans leur valise, dans l'avion. Et ils les ont branchés dans l'arrière-salle du Flynn Center, là où avait lieu la conf, vraiment, mais à l'arrache totale. Ça s'est passé comme ça. Donc,
Je serais étonné que ça se passe encore comme ça dans l'Apple d'aujourd'hui, quand même, parce que Apple a quand même est tellement plus gros, a tellement plus de moyens, sûrement tellement plus lourd à bouger, quand même.
Il reste sur des petites équipes en silo, des petites équipes de centaines de personnes, mais il y a toujours cette organisation en start-up. C'est la reproduction de l'équipe des flibustiers dans un petit immeuble à côté du gros siège principal sur lequel ils ont bossé sur le Mac. C'est cette organisation qui perdure projet par projet.
Mais c'est pas tout à fait de ça dont on parle quand même, dans ce qui semble sortir. C'est que l'équipe de design, en gros, préférerait sortir des lunettes plutôt qu'un casque.
Il y a ça aussi.
Donc, a priori, ça veut dire que le casque est à peu près prêt. Peut-être que l'équipe a peur de faire quelque chose qui ressemble trop au Quest de Meta et au Vive de HTC, justement.
Exactement.
Et que du coup, on n'a rien d'autre à proposer, quoi. Moi, je pense que cela dit, ce que j'attends aussi de la part d'Apple, comme je le répète à chaque fois, c'est qu'ils racontent une histoire, mais qu'ils montrent aussi des choses qu'on n'a quand même pas encore tellement vues, c'est-à-dire de travailler avec ce casque-là, Mais ouais. il y a un côté professionnel de travailler avec ça qu'on a peut-être et pas de la façon du méta horizon avec les avatars sans jambes de Facebook, ouais. Mais d'être assis à un bureau avec 18 écrans virtuels, donc du coup ouais. Par exemple des choses comme ça. Voilà, mais je pense quand même le casque lui est prêt, les technos sont prêtes, ce sont les lunettes qui sont pas prêtes, comme le répète aussi souvent Élie, hein. Et c'est ça, je pense que la discussion, c'est bah non, on va pas attendre les lunettes parce que ça c'est même pas 2025, c'est 6, 7, 8, 2028 quoi.
C'est très intéressant parce qu'effectivement le message que fait passer l'équipe design, c'est pas seulement que le casque en lui-même est pas encore satisfaisant. Mais eux, ils voudraient effectivement carrément sortir directement les lunettes. Et ça, on sait que c'est au moins 2 ans, si ce n'est 3, avant d'avoir quelque chose. Donc, y a un double message. Et quelque part, c'est pas rassurant du tout. Parce que ça veut dire que le casque, même s'il était prêt, il apporterait pas forcément beaucoup plus ou suffisamment plus que les autres par rapport à ce qu'on attend d'Apple et de ce côté waouh. Avec chaque nouveau produit, une révolution, quoi.
Il faut quelque chose qui prépare le marché. Un peu comme on a eu le Lisa avant le Macintosh. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se joue. D'autant que Microsoft travaille également sur des choses, des apprentissages, de la mise en situation de professionnels avec de la réalité virtuelle. Donc, il faut absolument qu'Apple soit présent là, d'autant qu'ils ont des ambitions, pour la première fois depuis très très longtemps, sur le marché professionnel, et ils sont en train de gagner. Donc ils peuvent pas laisser tomber ce nouveau truc et l'abandonner à Microsoft.
Alors, qu'est-ce que veut dire, selon vous, cette fuite, ces premières images, peut-être de composants internes du futur casque, ces câbles plats en forme d'arceau dont on a parlé dans la quotidienne de ce mardi avec Gilles. Bon, Gilles, tu nous l'as déjà dit dans la quotidienne, hein.
Je crois que j'ai dit une bêtise, en fait, en décrivant des arceaux comme le dessus des lunettes, mais en fait c'est vraisemblablement le dessous. Puisqu'on a, je m'y ai souvenu ensuite, on a parlé d'un design en forme de lunettes de ski. On a quelque chose d'horizontal sur la partie supérieure et des arceaux qui vont épouser la forme du nez ensuite sur la partie la plus basse du casque.
Ouais, alors c'est pas aussi évident. Il y en a peut-être en forme d'arceau sur le dessus, puis en forme d'arceau aussi sur le dessous avec un espace pour le nez. Est-ce que tu crois, Fabrice, toi, que la sortie de ces images, elle est un petit peu instrumentalisée ou en tout cas pilotée, voulue quelques jours après le papier du Financial Times pour dire, comme le suggérait Gilles. Bah, le casque, en fait, il n'y a pas de débat parce que le casque, il est en train d'arriver, quoi. Il est là. Il est presque là.
Alors, ça fait pas mal de temps, je crois, qu'on se pose la question de savoir ce qu'a voulu dire Apple quand ils ont annoncé, notamment par la voix de Tim Cook, qu'ils allaient renforcer les mesures de sécurité pour éviter les fuites. Et une façon d'éviter les fuites, c'est de les faire soi-même. Ça fait des années qu'on parle de ça à propos d'Apple. Est-ce que ça se serait orchestré ? Il y a quand même de temps en temps, au moins on se pose la question de temps en temps. Alors Apple jusque-là avait plus l'habitude de passer par, c'était plus ou moins des fuites par des grands noms de la presse américaine, USA Today et New York Times, du temps de la grande époque de David Pogue par exemple. Je sais pas trop, parce qu'en même temps, si le casque est prêt et qu'il est donc présenté au mois de juin, comme tu le rappelais tout à l'heure, on est tout prêt, ça veut dire que forcément les composants sont construits, ils vont servir, et que des petits comme ça, malgré toutes les mesures de sécurité d'Apple, on peut en mettre ça dans sa poche pour ensuite faire des photos. Donc Je suis pas orchestré, j'en sais rien. Moi, je pense que ça a l'air quand même de confirmer qu'il y a quelque chose qui se prépare véritablement. Et en tout cas, moi, je ne crois pas une seconde que Apple va attendre encore des années avant de sortir quelque chose. Pour moi, la vraie difficulté d'Apple, c'est que ce qu'il y a sûrement de plus intéressant dans ce qu'ils vont proposer aujourd'hui, c'est pas tellement le casque, c'est toutes les technologies autour que je décrivais tout à l'heure. Mais ça, c'est un truc de développeur et c'est pas waouh. C'est-à-dire que même si le casque il a deux écrans 8K, un écran 8K par œil et puis tout un tas de trucs, s'il n'y a rien à montrer pour l'utiliser, on a du mal à faire waouh. Alors que je pense qu'il y a un truc. Moi, ce à quoi je m'attends, et j'écoute des podcasts avec des développeurs, ils attendent de pouvoir mettre la main dessus, les doigts dessus, pour développer pour. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, un discours qu'on a entendu de la part des développeurs quand Meta a annoncé tout son projet Horizon World, par exemple. Bon, il n'y a pas plus de d'appli que ça. J'ai utilisé un Quest pour un peu. Le nombre d'applications qu'il y a dedans, ça casse pas des briques, hein, quand même. Alors ouais. Que là, j'ai le sentiment qu'il y a tout un tas de développeurs qui attendent de voir ce qu'on peut faire avec ils ont envie de jouer, quoi. Mm. Ils ont envie de jouer. Et l'effet waouh, il viendra un peu après. Et c'est peut-être un des problèmes de la présentation d'Apple, c'est que l'effet waouh, il va venir après. Il y a un effet retard.
Il y a un effet Apple de la part des développeurs. Donc, ils veulent voir ce qu'ils ont à proposer. Merde, c'est Apple. Je veux voir, j'en veux. Et puis, si Apple montre quelque chose, il y a un certain nombre de gens qui sont dans la boucle, qui sont enfermés maintenant depuis quelques semaines dans une pièce. On leur donne de quoi manger par une chatière dans la porte. Ils ont interdiction de sortir et ils auront quelque chose à montrer si tant est qu'ils présentent le casque en juin prochain, quoi.
Bon, en tout cas, sur ces composants, hein, qu'on a aperçus donc sur un compte Twitter, alors le compte Twitter d'un leaker dont l'historique est pas mauvais, son pseudo c'est Mr. White 128. Donc on peut potentiellement considérer que ces images sont effectivement des composants à venir du futur casque, même si lui ne le dit pas. Le tweet est simplement accompagné de l'emoji de lunettes. Donc on fait le rapprochement avec le casque. Et puis ce leaker ne tweet que des infos à propos de futurs produits Apple. Donc voilà, les probabilités sont assez réduites. En revanche, alors sur l'un des articles que j'ai lu juste avant qu'on démarre, il y a effectivement un doute sur l'un des composants qui est sur ces photos. Ça ressemble énormément à un composant qu'on trouvait sur le premier HomePod. Si je ne me trompe pas, du côté de la zone des micros, c'est un câble plat avec trois capteurs, un à chaque extrémité et un troisième au milieu. Et on a quasiment la même pièce sur le premier HomePod. Alors, soit ça nous fait douter de l'authenticité de ces pièces, soit ça veut dire qu'Apple a peut-être réussi à réutiliser un composant qu'on avait déjà, notamment dans le premier HomePod. Voilà.
Et pas seulement un processeur S6.
Voilà, absolument. Juste, tu évoquais Meta il y a quelques instants, Fabrice. Tu ne l'as pas dit, mais Meta annonce aujourd'hui 10 000 suppressions d'emplois supplémentaires. Donc Meta, c'est la maison mère de Facebook et d'Instagram, vous le savez. Donc 10 000 départs d'ici la fin de l'année qui s'ajouteront aux 11 000 qui avait déjà été annoncé au mois de novembre. Ça fait 21 000 personnes qui partent. C'est un quart de l'effectif global de Meta supprimé en quelques mois. Voilà. Meta qui se concentre sur quand même sur un domaine assez proche du casque dont on parle, hein. Donc comment vous comprenez cette deuxième vague énorme là chez Meta?
C'est terrible. Ça me fait penser à un truc de vieux encore. Hein. Vous vous rappelez de Real Networks, qui était numéro un de la
Real Audio,
du streaming et de la diffusion en ligne au début des années 2000. On a Rob, je ne sais plus comment il s'appelle.
Glaser.
Rob Glaser qui avait identifié le next big thing avec la musique en ligne et la musique par abonnement et qui a brûlé ses vaisseaux et a balancé complètement l'activité de la société sur dans cette perspective et ils ont pratiquement tout perdu.
Il y a d'autres exemples. Hein. Je pensais à Clubhouse. Ben, ils sont pas morts.
Ouais, alors c'est peut-être pas tout à fait la même chose pour ça parce qu'il y a aussi des sociétés qui se créent pour se bien se présenter pour ensuite être rachetées. Le pari c'est d'être racheté. Dans certains cas ça marche et on se fait racheter par Facebook et on se fait manger, c'est très bien. Dans d'autres on se fait pas racheter, on se fait tuer quand même parce que justement Twitter sort Twitter Spaces et Clubhouse c'est fini. Donc c'est un jeu un petit peu dangereux pour ça. Ce que je remarque sur les ce que tu dis, ce qui me frappe le plus, c'est pas le nombre, c'est le pourcentage. C'est-à-dire que quand il y a eu toutes ces annonces de licenciement, Amazon a sensiblement annoncé le même nombre que Facebook, mais pour Amazon, ça représente rien.
Ouais.
C'est-à-dire, ce sont des variables d'ajustement. Je m'empresse d'ajouter, ce sont des hommes et des femmes, naturellement, mais on comprend bien ce que je veux dire. Hein. C'est vraiment de la proportion.
Et quand, ils sont 2 millions chez Amazon.
Quand Amazon vire ou termine les contrats de 20 000 personnes, c'est parce que ces saisonniers, ils en réembauchent la même chose la semaine d'après, finalement. C'est pas dans les conditions qu'on sait. Hein. Je mets pas ça en cause, hein, mais pour certains, en tout cas. Mais là c'est vraiment plus important. Zuckerberg a beaucoup insisté sur le fait qu'il parier l'avenir de sa société sur justement sur le métavers et tout le reste. Et pour l'instant, il a du mal à convaincre, comme on le dit à longueur de semaine. Et peut-être que voilà le résultat. On avait aussi évoqué dans la quotidienne que Facebook, il y a 2 milliards de comptes, mais ça ne veut pas dire que c'est très utilisé et que ça marche tant que ça. Hein.
Donc,
ça vieillit tout ça, en fait, de ce point de vue-là pour Facebook.
Ça vieillit avec les utilisateurs et il me semble que j'avais évoqué ça avec. Avec toi, Benjamin, quand on vire des gens quand on se met au régime, comme c'est la métaphore qui est utilisée, on perd à la fois du muscle, on perd de la graisse, mais du muscle. Et là, c'est pas les fonctions de soutien qui sont impactées, ce sont les ingénieurs. Donc c'est de l'innovation et de la force de travail qui s'en va.
Juste à propos du casque Apple, j'ai une dernière question parce qu'on parlait de l'héritage potentiel de Tim Cook tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que le casque ce sera le premier produit conçu entièrement sous son règne entre guillemets ? Et c'est aussi pour ça que c'est important, c'est que il est le patron depuis plus de 10 ans et ça va être le premier produit qui a vraiment son sceau.
S'il y a un problème, s'il y a un successeur qui passe des envies, si Apple rencontre des difficultés, je pense que il n'a pas envie que ses lunettes soient le Newton de John Sculley. Mmh. C'est un produit qui avait de l'intérêt, qui se vendait pas mal, même si c'était un marché de niche. Et quand il a fallu sauver Apple, il y a eu des choix difficiles à faire. Je ne pense pas que ça a été si difficile que ça à faire pour Steve, mais ça avait du sens au niveau industriel quand même de fermer la division et de recentrer les ingénieurs sur ce qui vraiment pouvait sauver Apple. Quand il y a un état de choc, l'organisme se concentre sur les organes essentiels, le cœur, le cerveau et tout ce qui est un peu à la périphérie pâtit, y compris des choses aussi importantes que le foie, les reins ou d'autres organes qui pourtant sont importants.
Fabrice.
Ouais, du coup, je vais continuer à filer la métaphore santé, parce que je pense qu'il faut pas oublier justement l'aspect santé et que je sais pas si d'abord
disons que Tim Cook a envie d'avoir de laisser un héritage, sûrement. Et en tout cas, de laisser Apple dans un état au moins aussi bon que celui dans lequel on lui a laissé à lui, parce que je pense qu'il y a quand même un attachement personnel à la chose. Mais on sait aussi que tout ce qui concerne la santé chez Apple est important, et notamment sous l'influence de Tim Cook. Enfin, c'est aussi pour ça. Enfin, la montre de ce point de vue-là est déjà, me semble-t-il, même si, je ne sais pas si c'est lui qui a participé à son lancement, mais tout le développement et encore plus, on en a parlé il n'y a pas si longtemps là, de la potentielle arrivée de
la glycémie,
de la glycémie dans la montre, etc. Tout ça, ça c'est vraiment quelque chose auquel des choses auxquelles il tient véritablement, tout le développement autour de la santé. Et il l'a dit aussi, en disant, je pense que dans quelques années, on se souviendra d'Apple pour ce qu'elle leur a laissé au niveau de la santé. Donc le casque, c'est peut-être important, mais pas forcément aussi proche de son cœur que ça.
Merci beaucoup, mes amis, pour cette discussion presque au coin du feu, à bâton rompu sur le casque. Un sujet, alors, c'est pas la première fois qu'on en parle et c'est certainement pas la dernière. Je pense que plus on approche de la WWDC, plus on va en parler. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitter, vous avez vu nos prédictions pour à la fois la date de la keynote et la date à laquelle cette keynote pourrait être annoncée, ainsi que la confirmation de cette conférence développeur. Mark Gurman en a remis une couche il y a quelques heures sur son compte Twitter aussi, en faisant chauffer la sauce, en avançant lui aussi que la confirmation de la WDC semblait un peu plus imminente, donc ça pourrait arriver d'un jour à l'autre. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler d'Apple, mais cette fois d'Apple côté bourse, Wall Street, Nasdaq. La réunion annuelle des actionnaires, c'était vendredi, et on va tout savoir avec Gilles. Rendez-vous était fixé vendredi 10 mars 2023 pour la réunion des actionnaires Apple, une obligation légale qui est aussi pour les actionnaires de l'entreprise le seul moment où ils peuvent directement interpeller Tim Cook et où ils doivent voter les points à l'ordre du jour. Pour la première fois, Tim Cook n'a peut-être pas tout à fait dormi sur ses deux oreilles la veille, l'année n'ayant pas tout à fait été conforme aux précédentes. Entre la pénurie des composants, le départ de Russie avec les sanctions, l'incapacité à fournir les iPhone 14 Pro et Pro Max à Noël, des résultats en dents de scie. Mais Gilles, finalement, tout s'est bien, voire très bien passé.
Oui, comme une lettre à la poste.
Bah oui.
D'autant que cette année encore, ça s'est tenu de façon virtuelle avec les membres de la direction qui étaient sous forme d'émoticônes, et puis les interventions étaient des actionnaires étaient enregistrées, donc ça limite un peu les possibilités d'engueulade en direct.
Ouais, enregistré à l'avance, tu veux dire.
Oui, c'est ça.
Donc on connaissait les questions. Enfin, ils connaissaient les questions.
Voilà, ils pouvaient préparer les réponses.
Ouais.
Mais les réponses étaient succinctes, et puis surtout les propositions étaient soumises au vote, et on va voir que le vote a été favorable à Apple, et tout le monde a voté comme il fallait, en fait, comme Apple le désirait.
Ouais. Bon, on commence par les sous-sous du patron.
Ouais, il faut être juste. Hein, Apple avait pris les devants sur les histoires de rémunération, et dès le mois de janvier, Tim Cook avait annoncé que sa contribution baisserait de 40%, ce qui a coupé l'herbe sous le pied à la proposition et l'interpellation qui devait avoir lieu dans ce sens.
Et il a vu le truc arriver quand même. Hein.
Il est trop fort.
Oui, c'est Tim Cook, hein, donc on n'est pas dirigeant d'Apple pour rien. Et on n'est pas non plus dans la baie de San Francisco pour rien, puisque Tim Cook qui passe de 99 millions de dollars en 2022 à 99, il reste un 49er avec donc ses 49 millions de rémunération cette année.
Belle référence sportive.
Oui.
On applaudit.
Bravo pour ce touchdown, Gilles. Y avait l'argent du boss, il y avait aussi la rémunération de tous les autres dirigeants.
Oui, les deux dernières propositions d'Apple concernaient la rémunération des dirigeants et la reconduction, en fait, puisque le vice-président senior était grosso modo rémunéré à hauteur de 27 millions de dollars, ce qui est un peu moins que le boss, mais qui est quand même pas mal. Mais surtout, il voulait refuser la possibilité de discuter portion par portion de la rémunération, c'est-à-dire salaire fixe, intéressement, les bonus en numéraire et puis en action, ce qui est important.
Bon, combien ça fait pour chacun des grands noms d'Apple? Je pense à Jeff Williams, à Craig Federighi, à Deirdre O'Brien, même si elle semble avoir un petit peu de plomb dans l'aile. Je pense à Luca Maestri, le directeur financier, etc. Donc, ce deuxième étage, là, sous Tim Cook, là, combien ils touchent chacun à peu près en 2023?
À peu près 27 millions de dollars chacun pour l'année, ce qui est pas mal.
Ce qui permet de faire ses courses, ouais, effectivement.
D'acheter des Ferrari ou des... La mode des voitures allemandes est un peu passée chez Apple.
Ouais. Bon, l'un des points, c'était aussi la réélection du board, son renouvellement ou son maintien.
Oui, là aussi, ça a été reconduit tout confondu, même si il y avait une résolution qui apparemment demandait la tête de Al Gore et même de Tim Cook au board des directeurs, et ça a été refusé.
Alors on passe aux autres résolutions. Gilles, il y a peut-être eu plus de piment à propos des autres sujets. Alors il y a les résolutions qu'Apple proposait d'accepter, puis il y a celles qu'Apple proposait de rejeter. Alors de quoi on parle?
C'est comme la 5e République. Il y a les amendements qui sont acceptés, qui sont refusés par les dirigeants. Donc pour les actionnaires, la première concernait les droits civiques et la mise en place d'une évaluation annuelle, et Apple a refusé en disant que celle qui avait été entamée l'an prochain n'était toujours pas terminée. Il y en avait une autre qui réclamait un audit annuel de la dépendance de la firme vis-à-vis de la Chine. Je vous casse assez les pieds avec ça. Et la proposition a été rejetée par Apple au regard de sa communication volontaire sur le sujet, ainsi que les détails qui ont été fournis régulièrement à la Securities and Exchange Commission. Ils ont une communication tous les trimestres sur la politique industrielle et financière surtout. Alors il y avait une autre proposition qui visait à augmenter la fréquence et la manière dont le conseil d'administration communique directement avec les actionnaires, et une proposition pour obliger Apple à rendre compte de ses efforts pour éliminer les différences salariales entre hommes et femmes ou sur des bases ethniques. Et il y avait un fonds d'investissement activiste qui parlait de biais systémiques qui étaient ignorés par Apple dans sa politique vis-à-vis des femmes et des minorités. Ça aussi s'est passé à la trappe. Puis la dernière, c'était élargir le droit de proposition des actionnaires au conseil d'administration, qui pour l'instant est limité à une candidature. Et là aussi, Apple a eu gain de cause. Et finalement, tu l'as dit, hein, tout s'est bien passé. On est reparti pour un an et ça roule.
Ouais. Cette année, ça s'est à nouveau passé comme sur des roulettes. Est-ce que ça veut dire que quel que soit le contexte, en fait, cette réunion, c'est pas qu'elle... Enfin, je veux pas dire qu'elle sert à rien, mais on en attend trop tous les ans, finalement, nous, de l'extérieur.
Mais tant que Apple continuera à racheter des actions, à distribuer des dividendes et à continuer à engraisser les actionnaires, parce que vraiment... Il y a un truc, moi, qui me choque beaucoup, c'est que ils lèvent des emprunts pour rémunérer les actionnaires, faire des rachats d'actions et puis donc distribuer du dividende. Et à la fin des fins, ce trimestre par exemple, ils n'ont pratiquement pas payé d'impôts pour cause de remboursement d'emprunt. Donc il y a quelque chose qui... Apple parle beaucoup de laisser le monde meilleur que quand ils sont arrivés, etc. Mais cette façon de retirer des ressources au pouvoir public en les forçant à s'endetter de leur côté et en diminuant les ressources disponibles pour les services publics, pour les soins médicaux, etc., ne va pas. D'autant que cet argent de l'optimisation fiscale va se mélanger dans les paradis fiscaux avec celui de l'évasion fiscale et, à la fin des fins, celui de la fraude fiscale et de voir des trafics en tout genre. C'est un peu le point aveugle de la politique d'Apple et de la façon dont fonctionne le système industriel en ce moment.
Fabrice, tu avais l'air d'osciller de la tête pour dire qu'effectivement, ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de cette réunion annuelle.
Bah, probablement pas, et ça va dans le sens de ce que dit Gilles aussi, c'est-à-dire que tant que... en gros, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que Apple va bien, et que même si cette année, ça a été un peu moins bien, malgré tout, c'est même... ça a été éventuellement un peu moins bien, mais ils ont fait des bénéfices énormes, et la diminution des bénéfices était moindre que celle des concurrents globalement. Donc, ils ont quand même fait mieux que la moyenne. Donc, c'est difficile de mettre en ballotage défavorable des dirigeants ou des décisions des dirigeants actuels. Parce qu'on ne peut pas se baser sur des mauvais résultats, sur des choses horribles qu'ils auraient faites. Enfin, en plus, Tim Cook ne fait pas la une des journaux à scandale, jamais. Il a un discours toujours posé. Enfin, il est quand même très, très difficile à mettre en difficulté, pour de bonnes raisons, me semble-t-il. Donc, je trouve que ce genre de réunion-là, moi, ça me fait penser à la conférence téléphonique des financiers, là, tous les trimestres, à chaque résultat financier, où on sait bien que même les analystes financiers ne posent plus les questions de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, parce que de toute façon Apple répond pas. Ouais. Donc là c'est pareil. Oui, c'est un passage obligé. Pour la petite histoire, ma petite boîte à moi que j'ai, c'est une boîte unipersonnelle. Il faut quand même faire tous les ans un conseil d'administration. Mais il y a une personne dedans.
Entre toi et toi, oui.
Et il faut quand même faire un conseil, voilà. Donc, donc il faut se convoquer soi-même et dire si on est soi-même d'accord. Là, c'est presque pareil finalement, parce que il y a rien à dire. On va pas virer Tim Cook. Non, justement, on va pas virer Tim Cook, quoi. Voilà, bien sûr que non. Il fait ce qu'il veut, c'est normal.
Bon, juste pour finir, je pense que je vous ai déjà raconté comment en 2002 j'ai laissé filer l'occasion d'acheter des actions Apple. Autant vous dire qu'en 2002, elles n'étaient pas très chères. De mémoire, elles étaient à 11 ou 12 dollars. J'avais quelques milliers d'euros 19. À placer. Et alors 12, hein, vraiment 12, je m'en souviens, je pense. Alors c'était peut-être pas exactement en 2002, c'était peut-être juste avant ou juste après. En tout cas, voilà. Donc j'avais quelques milliers d'euros à placer. C'était avant Boursorama et les facilités qu'on connaît aujourd'hui. J'avais appelé une banque américaine qui m'avait envoyé un dossier par la poste. Je n'avais plus qu'à signer et à remettre l'enveloppe au courrier. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur de jamais revoir mon argent, de pas avoir le contrôle, de voilà, que ça c'est comme si je mettais 5000 balles dans une enveloppe que je reverrais jamais. Mais en fait, j'aurais bien mieux fait de poster cette enveloppe parce que 1000 dollars d'actions Apple achetées il y a 20 ans, aujourd'hui, ça représente 695 000 dollars. Et donc je serais grosso modo à la tête de 3 ou 4 millions d'euros en actions Apple. Et je pense que ça permet de mieux comprendre pourquoi les actionnaires disent oui à tout ou quasiment tout lors de cette réunion. des actionnaires annuels. Voilà. Je pensais que mon petit exemple perso, mon petit mélodrame perso pouvait vous éclairer.
On est plein à avoir fait... j'ai failli faire la même chose. Et au dernier moment, je me suis dit... Bon, c'était à 19, hein, c'était pas à 12. Ouais. C'était fin 2000.
Le rapport était pas mal non plus.
Ouais. Enfin voilà, nos petites histoires avec, avec l'action Apple. On se retrouve dans quelques instants pour ta mise au point, Gilles. Il va être question de notre santé et de nos oreilles. À tout de suite. Gilles, cette semaine, tu t'intéresses aux capacités de monitoring dont les AirPods pourraient se voir dotés d'ici un ou deux ans.
Oui, Benjamin. En tout cas, c'est ce que Mark Gurman pronostique dans sa newsletter Power On, qui a été relayée dans un papier d'Apple Insider. Alors, pour être tout à fait transparent, je suis abonné dans la version gratuite et dans la version que j'ai reçue, il était plutôt question du turnover assez inhabituel parmi les dirigeants d'Apple et on en a parlé dans la quotidienne, je crois. Mais néanmoins, il se murmure donc, selon l'expression consacrée, qu'Apple pourrait utiliser le conduit auditif pour collecter un certain nombre d'informations physiologiques à partir de futures versions de l'iPod, de l'AirPod, pardon, ou de l'AirPod Pro, et qui pourront faire un véritable outil santé à la manière de l'Apple Watch.
Mais comment est-ce qu'Apple compte s'y prendre? Parce que il marche un peu sur des œufs là avec le récent procès en appel perdu sur la surveillance du rythme cardiaque, on s'en souvient, on en a parlé ici et dans la quotidienne.
Oui, il s'agit de mesurer le rythme cardiaque et le flux sanguin à travers la peau du conduit auditif et pas le poignet et les petits capillaires du poignet.
Ça change tout.
Oui.
Ça change tout.
Ça change tout, en tout cas, on l'espère pour Apple, puisque ils sont vraisemblablement en train de se faire interdire d'importation de l'Apple Watch sur le marché américain, et donc ça va leur coûter un bras, si j'ose dire.
On n'y est pas encore. Mais c'est
apparemment l'administration Biden actuelle a levé le,
ouais.
Enfin n'a pas interjeté
son veto.
Ils sont plutôt d'accord, en tout cas, ils sont pas contre et ils vont laisser le processus contractuel et législatif, enfin judiciaire, suivre son cours. Et donc là, il s'agit d'utiliser le flux sanguin à travers la peau du conduit auditif qui est plus mince, mais également éventuellement les capacités acoustiques de l'AirPod. On parle de l'électrocardiogramme, mais également de la réponse électrodermale, de la concentration d'oxygène et même la température ou les échanges à travers la membrane cutanée. Apple Insider pointe également un autre brevet qui vise à fixer plus sûrement les écouteurs à l'oreille de manière à assurer un meilleur contact avec la peau.
Mais ça va largement au-delà des fonctions d'aide auditive qui sont pour l'instant associées aux AirPods, Gilles.
Ah oui, c'est bien ça. Ça n'empêche pas le traitement de données par l'iPhone ou l'Apple Watch. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il y a la possibilité de diffuser plus largement les fonctions des appareils vendus aux alentours de 200 euros. C'est ce que soulignait Fabrice d'ailleurs. On diffuse cette mission santé qui a l'air d'être embrassée par Apple beaucoup plus largement. Et on n'est plus sur des tarifs de 300 voire de 500 euros comme c'est le cas actuellement avec l'Apple Watch. Et surtout, il y a la possibilité de croiser ces données avec tout ce que peut fournir l'Apple Watch Ultra par exemple, pour une version beaucoup plus avancée et professionnelle du contrôle des constantes physiologiques dans une perspective de pratique sportive avancée, cette fois-ci, voire professionnelle. Et puis, il y a aussi la possibilité de contourner les positions acquises par des sociétés du secteur médical qui sont positionnées sur la surveillance des constantes biologiques depuis plusieurs dizaines d'années. Alors encore un peu de patience. Il est vraisemblable que les lunettes ou le casque, éventuellement, devraient apporter également un lot de nouveautés de ce côté-là.
Et toi, tu miserais sur quelle version des AirPods et quel produit ? Les pros ou le modèle le plus abordable, les AirPods tout court ?
En général, ça commence par les pros et on diffuse quand... c'est encore une question de composants. Hein. Il faut qu'ils soient disponibles suffisamment, qu'ils soient suffisamment amortis et devenus meilleur marché pour pouvoir préserver la marge brute.
Bon, et quelle génération, du coup, de AirPods Pro ? On est déjà à la 2, tu dirais ? 4 ?
D'après Mark Gurman, c'est la 3 ou la 4.
3 ou la 4. Bon. Merci Gilles pour... Merci Gilles pour cette mise au point. Ouais, c'est ça. Voir la 5.
Quand je me mouille, je me plante.
Allez, tu vas pouvoir te lâcher là. Dans un instant, on se retrouve pour nos coups de cœur et nos cartons rouges et jaunes de la semaine. Alors, Fabrice, est-ce que t'es chaud ? Je vois que t'as 3 sujets. Garnement. Tu veux commencer par dire du mal ou dire du bien ?
Allez, je vais commencer par dire du mal et ensuite on pourra se détendre en disant du bien. T'as raison, on va faire comme ça.
Très bien. Allez, vas-y.
Alors,
quelle couleur le carton ?
Dans le truc, il y a deux choses qui m'ont énervé. Alors déjà, c'est l'iPhone jaune.
Et, c'est pas dans ta liste.
Si, c'est dans ma liste parce que
c'est ça.
Vous avez pas vu, il y a donc une vidéo de publicité pour vanter les mérites de l'iPhone jaune, qui 14 jaune, donc qui est comme seul mérite d'être jaune. Et la musique utilisée, c'est Banana Split de Lio, un tube de 1979. Et là, je dis non. Mais si, vous avez pas entendu ça ?
J'ai pas vu.
Il faut pas. Alors voilà, donc c'est un truc plus ou moins en dessin animé, là, etc. Et Banana Split par Lio.
Alors, elle va toucher un max.
Tant mieux pour elle. Mais moi, j'avais bien espéré ne plus jamais entendre ce truc. Et donc, non seulement on l'entend pour la pub Apple, et en plus, je suppose que ça va relancer les écoutes et ce disque. Et c'est affreux, quoi. Excusez-moi, mais bon, ce sont les coups de gueule, et donc c'est mon goût à moi, et c'est peut-être pas le vôtre. J'en suis désolé, mais moi, j'ai horreur de ça.
Bon, du coup, c'est un carton jaune.
Ouais, jaune vif, celui-là. Encore bravo. Alors, pour vous plaindre, vous écrivez au capitaine.
C'est ça. Bon, est-ce que tu veux un deuxième carton jaune ou rouge ?
Alors, un deuxième carton jaune, alors, un peu moins... virulent. Il y a eu une actu autour de l'application Outlook de Microsoft pour Mac qui est devenue gratuite. Il y a un truc qui me gêne avec Outlook, même si Microsoft a fait pas mal d'efforts en termes d'interface pour que ça ressemble à une application Mac et tout ça, mais ils font toujours du Microsoft, que ce soit gratuit ou payant, c'est toujours du Microsoft. C'est-à-dire que quand on installe Outlook, en fait, il y a toujours les deux versions, l'ancienne et la nouvelle, parce qu'il y a des types de comptes qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle interface graphique. Donc, c'est à n'y rien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, quand on installe Outlook sur son Mac, on installe deux applications, l'Outlook d'avant et l'Outlook d'après, tout ça dans un seul package, et on passe de l'un à l'autre, et de temps en temps, et donc ça m'est arrivé avec des clients, on installe le truc, et puis il y a une nouvelle interface, on clique dessus, non, votre compte n'est pas compatible avec la nouvelle interface. C'est complètement nul, et c'est du Microsoft tout craché, et donc je trouve ça vraiment terrible. Et puis il y a un autre détail qui m'énerve beaucoup, c'est que ils font des efforts pour que ce soit une application Mac, mais l'application elle-même n'est pas capable d'aller taper dans les contacts du Mac. Donc, si on a ces contacts stockés dans un compte iCloud, il faut forcément ajouter le compte iCloud à Outlook. Parce que, après, ce sera synchronisé avec l'application contact du Mac, mais donc ça veut dire que ça ne va pas taper dans la gestion centralisée des contacts du Mac ou de l'iPhone, justement. Et donc, en fait, c'est pas une application Mac. Donc, il faut l'installer uniquement si on a des comptes Exchange ou 365, et sinon, éviter. C'est dommage, il y a des efforts en termes d'interface graphique, mais en gros, ils ont fait des efforts de peinture. Et c'est tout. Et c'est dommage. Voilà.
Je te trouve bien gentil.
C'est Microsoft en même temps.
Je te trouve bien gentil avec ton carton jaune pâle. Mais bon.
Ouais, bah parce que on peut aimer ça.
T'es voilà. Gentil. T'es
mais en fait, je pense que j'étais plus énervé par Banana Split. Alors du coup.
C'est ça. Bon. Donc tu as quand même un coup de cœur au final.
Et j'ai quand même un coup de cœur. Il y a un truc. On en parle de temps en temps. C'est de Mastodon. On est présent sur Mastodon. On a des gens qui nous font coucou sur Mastodon. C'est chouette. Et puis moi, je l'utilise. Je trouve ça vraiment très bien. Et puis, moi, j'ai l'impression de revivre un peu les débuts de Twitter, quoi. C'est-à-dire que c'est très dynamique. Ça bouillonne de tous les côtés. Il y a des nouveautés, notamment autour des applications tierces autour de Mastodon. C'est-à-dire qu'on se rappelle que de manière pas très sympathique, Twitter a coupé les vivres aux applications tierces comme Tweetbot ou Twitterific. Et quand on va sur un réseau comme Mastodon, il y a des applications qui sortent de terre et qui se développent à vitesse grand V pour proposer tout un tas de trucs pour accéder à ce réseau social qui est un petit peu différent de Twitter, même s'il peut le remplacer d'un certain point de vue. Et je trouve ça vraiment chouette. C'est-à-dire que d'un côté, il y a par exemple... les éditeurs de Tweetbot dont le nom m'échappe juste là maintenant, zut alors, Tapbot, voilà, c'est le nom de la boîte, s'appelle Tapbot. Ils ont plus accès à Twitter et donc c'était quand même une bonne partie de leur business et voilà. Et donc ils développent une application pour Mastodon qui s'appelle Ivory, A-V-O-R-Y, qui est Tweetbot pour Mastodon en gros, donc c'est interface très léchée, c'est bien fait, ça se développe à vitesse grand V. Je fais une petite incise pour dire que Tweetbot est une application payante pour Twitter. Et que comme il n'y a plus d'accès à Twitter, on peut demander si on veut un remboursement au prorata de l'abonnement qu'on payait à Tweetbot. Et Tapbot et aussi les gens de Twitterific ont demandé gentiment si vous pouviez éviter de nous demander un remboursement même au prorata, ça nous aiderait beaucoup, sinon ça va nous tuer. Voilà, donc ils ont été quand même obligés de faire un peu de quémander. Voilà, donc moi j'ai fait ça, j'étais abonné à Tweetbot et j'ai réinstallé l'application pour pouvoir appuyer sur le bouton qui dit je ne demande pas de remboursement. Comme ça, je suis sûr de ne pas leur demander quoi que ce soit et ils pourront garder le peu d'argent, les quelques euros que je leur ai donné pour continuer leur développement et même survivre. C'est une boîte de 3 personnes.
Ouais, d'accord. Voilà. Alors, j'ai une question à te poser en complément. Bon, on est dans les coups de cœur, hein, on fait beaucoup plus long, mais on va dire que c'est exceptionnel. D'abord, que penser du projet P92 chez Facebook qui est censé être un futur clone de Twitter que personne vraiment n'attend? Et puis Blue Sky, le nouveau réseau social de Jack Dorsey.
Alors, ce sont deux thèmes différents. Parce que le truc de Facebook, en fait, ils ont dit... Alors, Mastodon s'appuie sur un protocole d'échange de données qui s'appelle ActivityPub. Et qui permet, c'est comme ça, donc Mastodon, c'est pas un réseau, c'est une fédération de réseaux.
Ouais.
Et qui utilisent tous le même format, donc ActivityPub. Et Facebook a dit, tiens, nous, on va faire un truc qui serait compatible avec ActivityPub pour que les contenus de Facebook puissent être diffusés sur Mastodon. Donc c'est tout leur intérêt en même temps. Parce que si les gens partent de Twitter et peut-être aussi de Facebook pour aller sur Mastodon, c'est une manière de garder contact et c'est aussi ça tout l'intérêt de ce système ActivityPub, de pouvoir partager des contenus sur des plateformes qui sont censées être différentes et ça va aussi dans l'esprit de ce que demande l'Union Européenne par exemple, de pouvoir passer d'un réseau à l'autre en prenant ses données avec soi. Voilà. Et WordPress a fait la même chose. Ils ont dit qu'il donnait, c'est en bêta maintenant, un module pour que ce qu'on publie sur son blog WordPress soit accessible via ActivityPub, et donc avec un compte Mastodon, quelle que soit l'instance Mastodon. Faudra qu'on reparle un petit peu de tout ça, parce que Mastodon, c'est des fois un peu compliqué, mais on a un compte Mastodon pour simplifier, et on pourra accéder à des contenus qui sont publiés sur un blog WordPress. Voilà. Et c'est automatique, c'est compatible. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de ce point de vue-là, outre Mastodon, qui est juste une expression de ce format de données. Quant au projet de, donc, de je sais plus comment ça s'appelle, là, qui est fait par Jack Dorsey.
Blue Sky.
Donc Jack Dorsey, c'est un des fondateurs de Twitter, qui est parti avec un paquet de pognon, et puis il s'est dit, tiens, je vais refaire un autre truc, et donc un Twitter bis. De mon point de vue, c'est pas intéressant du tout, et d'ailleurs, depuis que les bêtas sont un peu ouvertes, personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Parce que c'est un Twitter bis, centralisé plus ou moins, il semblerait qu'il ait raté une marche. C'est-à-dire que l'engouement pour Mastodon a été tel qu'un autre réseau, même poussé par Jack Dorsey, voire même à cause du fait que c'est poussé par lui, et que parce qu'on se plaint de ce qui se passe sur Twitter aujourd'hui, on s'en plaignait aussi un peu avant quand même, hein, c'était pas un truc formidable non plus, enfin par certains côtés. Donc je pense pas que ça ira quelque part. Et le fait que Facebook annonce une volonté de compatibilité avec ActivityPub, donc le format de données utilisé par Mastodon, je trouve ça beaucoup plus intéressant et important. Ouais. Donc les applis, là, quand on s'amuse avec Mastodon, on peut essayer plusieurs applis. Je voudrais en citer une autre qui s'appelle Ice Cubes de Thomas Ricouard, qui est donc français et qui est parmi les applis tierces pour Mastodon les plus abouties et qui évolue aussi à toute vitesse. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste parce qu'on peut essayer plein de trucs, il se passe plein de choses autour de Mastodon et c'est rafraîchissant quoi, dans ce monde où on se plaint tout le temps. Technologiquement parlant, il y a quelque chose qui est en train de se passer véritablement et c'est passionnant à regarder et on peut aussi y participer. Voilà.
Merci Fabrice pour ce triptyque. Gilles, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as un sujet de coup de cœur ou de carton pour nous ?
Oui, j'ai un coup de cœur et un carton jaune. Le coup de cœur, il est pour nous parce que on est parti pour finir.
T'as raison, t'as raison.
Avant 1h30.
J'y pensais pas.
Qui n'est pas arrivé depuis longtemps.
Ah, attends, on a fait moins d'une heure la semaine dernière. Alors là, franchement.
Ouais.
On a fait 59 minutes et des poussières. Eh.
Bon. Vous étiez que tous les trois.
T'étais pas là,
ça. Le coude. Il n'y avait pas Ellie non plus. Si.
Ah, si.
Bon.
Et oui.
Et puis, le carton jaune, il est pour Fabrice, parce que je ne sais pas ce qu'il a contre le dessert que sert l'abominable homme des neiges. Je suis très triste pour Ellie et son menu.
C'est à cause du banana split, c'est ça?
Exactement.
Ouais, je comprends. D'autant que c'est un de mes desserts préférés. Moi aussi, je suis pas d'accord avec toi, Fabrice.
Mais je crois... En dessert, très bien, mais
oui,
en musique.
Non, c'est ça. Je suis là. Non, mais on s'est compris. Merci, Gilles. Merci, Gilles, pour cette contribution toujours savoureuse. Moi, j'ai un coup de cœur et j'ai un vrai conseil à vous donner si vous avez accès à Netflix. C'est de regarder le documentaire en trois parties sur la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Alors comme vous, j'imagine, j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque, et puis de moins en moins, ça va faire 10 ans que cet avion a disparu. Et ce doc en trois parties, qui est assez long, qui dure 3 bonnes heures, est construit de manière assez implacable, et c'est un vrai suspense, parce que plus on avance dans le récit, plus on a l'impression d'approcher la vérité. Donc je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais c'est assez fascinant et les témoignages sont très très forts. Il y a beaucoup de témoignages de proches des disparus. Voilà, je vous le conseille, c'est sur Netflix. Moi, ça m'a passionné et si vous commencez, vous ne pourrez pas vous arrêter jusqu'à la fin. Et il nous manque le 4e épisode. Voilà. On aimerait que le 4e épisode nous donne la solution. Ben, on la connaîtra peut-être un jour. C'est la fin de cet épisode 128 que vous retrouvez en vidéo sur YouTube à partir de dimanche et en avant-première dès jeudi sans pub sur patreon.com/iWeek. On se retrouve nous dans une semaine pour l'épisode 129. Merci à nouveau de votre fidélité, de votre soutien. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté Patreon, eh bien qu'attendez-vous ? Rejoignez-la, vous nous aiderez à poursuivre l'aventure iWeek. On a vraiment besoin de vous, c'est très important. Il y a évidemment un volet économique à ce projet. Même si on travaille bénévolement, on a besoin de votre soutien. Et ça se passe sur patreon.com/iWeek. Une communauté pour laquelle nous prolongeons l'épisode chaque semaine, juste après le générique de fin qui arrive dans quelques instants, avec un bonus exclusif qui est dispo à la fois en audio et en vidéo. Et cette semaine, il est consacré aux petits et gros arrangements de Samsung avec les photos de la Lune prises avec son nouveau S23 Ultra. Est-ce que le Coréen n'est pas en train de redéfinir au passage ce qu'est une photo prise avec un smartphone ? Eh bien, on va en discuter tous les trois dans quelques minutes. Salut les amis, salut Fabrice.
Salut mon capitaine, salut à tous nos auditeurs, encore un bel épisode, merci beaucoup.
Absolument, merci à toi le mentor en technologie. On te retrouve donc sur les réseaux, Mastodon, Twitter et sur ton site web.
pro-fusion-conseil.fr.
Et merci à toi Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef de Mac+, co-auteur de iPod Backstage chez Duno. Toujours un plaisir de te retrouver dans la semaine Apple, Gilles.
Le plaisir est partagé, je voudrais être là plus souvent. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, et je dis au revoir à tous les auditeurs. Un petit teasing, si on atteint suffisamment de nouveaux contributeurs sur Patreon, je donne une recette aux contributeurs, une recette de shortbread à la Ted Lasso. Pour le
15, c'est demain.
Le 15, pour le 15.
Bah non,
ouais, c'est demain.
Ted Lasso, c'est dans quelques heures.
Ah, dépêchez-vous, précipitez-vous.
Escroc.
Bien vu en tout cas, bien vu. Bon, on fait une bise aux absents. Elia Beatball, parti travailler à Disneyland Paris. Et François Le Truédic, que vous retrouverez également très vite dans cette quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple, avec ses visuels, nos binômes, 5 à 10 minutes qu'on fait à deux voix chaque jour, avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. C'est gratuit comme la semaine Apple, et c'est sur toutes les grandes plateformes de podcast. Suivez-nous sur les réseaux, Twitter @iWeekNews, Mastodon @iWeekNews@mastodon.world et Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous, parlez d'iWeek, la semaine Apple autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On vous fait une bise, on vous dit bonne soirée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut à tous.
Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.